Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce News and Analysis de Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Viviane Lipski. Vous connaissez Viviane, elle intervient régulièrement sur mon podcast. Elle est la fondatrice de Brand Alchemy, elle est l'experte DNVB en France et accompagne les marques à repenser leur business model dans l'économie directe au consumer. Elle est l'autrice du livre DNVB, les surdoués du commerce digital. Salut Viviane.
Bonjour Adrien, en plein reconfinement ?
Exactement, en plein reconfinement.
Où est-ce que tu es, toi?
Bah écoute, je suis toujours chanceux. Moi, j'étais encore une fois chez mes parents et il se trouve que je suis à Annecy, en pleine nature, pas très loin du lac, pas très loin de la forêt, donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai qu'on est en plein reconfinement. On vit aussi la vague d'attentats en ce moment en France. C'est un petit peu morose comme période. Et il est en train de se jouer aussi un moment. C'est un moment assez historique. Enfin, c'est un moment important de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. On est en pleine élection américaine entre Joe Biden et Donald Trump. Et on va parler aujourd'hui de comment on parle les marques, les DNVB, pas seulement les marques de mode, hein, parce que j'ai l'impression que tout le monde prend la parole. C'est un peu la cacophonie, j'ai du mal moi à me rendre compte de ce qui est en train de se jouer là-bas. J'aimerais bien qu'on en discute un peu plus longuement avec toi et analyser tout ça.
Oui, on va s'échapper, t'as raison Adrien, on va s'échapper un peu de la France pour partir aux USA et regarder un peu effectivement cette élection qui est l'objet de tous les enjeux, parce que c'est quand même, on parle quand même de la première nation économique, c'est toujours pas la Chine, hein, donc
ouais, toujours
et puis,
pas.
Et puis on sait que la répercussion de cette élection sera mondiale, donc effectivement, et c'est vrai qu'elle arrive dans un contexte qui est très particulier, puisque depuis des mois déjà, la politique est absolument partout. Après les épisodes MeToo, Black Lives Matter, et puis évidemment la gestion ou la non-gestion du Covid, comme on voudra, c'est vrai que cette élection se présente dans un contexte vraiment délicat, d'extrême polarisation de l'opinion, avec d'un côté un candidat Trump qui est très très soutenu par une base très organisée, et de l'autre côté, le candidat Biden qui a eu beaucoup de mal à s'imposer de l'autre côté. Mmh. Et là, effectivement, tu as tout à fait raison. Ce qui est complètement différent par rapport aux élections précédentes, c'est que tout le monde prend la parole. Alors, tu disais les marques, les DNVB. Bah oui, on aimerait bien que ce soit les marques et les DNVB seulement. Ça nous simplifierait la tâche. Mais non, tout le monde, les influenceurs, tous les individus, les sportifs, et évidemment, toutes les entreprises et toutes les marques. Et ils le font de manière un peu différente, mais c'est vrai que...
Et ça, c'est nouveau quand même. Hein.
C'est très, très, très présent. Et, ouais. et du coup, on a l'impression que cet activisme peut parfois freeze le marketing, en fait. Freeze l'acte marketing. Donc, on va regarder un petit peu comment ça se passe, si tu veux. Déjà, concernant déjà ce système électoral qui est déjà aussi très très compliqué, hein. Donc la première chose à savoir, c'est que c'est un vote à suffrage indirect. Donc les Américains ne votent pas directement pour leur président, ils votent chacun dans son État. Et puis c'est un système de grands électeurs, donc les grands électeurs par État vont finalement élire le président. Mais donc le vote a commencé depuis déjà une semaine et oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement la grande majorité des États ont déjà une couleur politique, sont déjà, oui, c'est déjà tranché en fait. A priori, On sait qu'entre le vote républicain et le vote démocrate, déjà à peu près les États, on va dire 40 sur 40, ça va être, c'est déjà, on sait déjà. Donc tout l'enjeu se reporte sur ce qu'on appelle justement une dizaine à peu près d'États charnières qui ne sont ni très fortement républicains ni très fortement démocratiques et qui vont faire balancer le vote. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le vote est quand même très compliqué parce que les Américains, ils votent un peu pour tout. Ils votent, en même temps, ils vont voter pour leur sénateur qui renouvelle d'un tiers. Ils votent pour leur shérif, ils votent pour leur juge, ils votent pour absolument tout le monde. Et ils votent donc pendant plus d'une semaine, puisque le vote a commencé samedi 23 qui se terminera mardi 3. Et ils votent, si tu veux, il n'y a pas de législation pour l'ensemble des États pour décider de quelle manière on va voter. Je m'explique, c'est-à-dire qu'ils peuvent voter effectivement en présentiel dans des bureaux de vote ou par correspondance, mais chaque État, voire chaque comté, gère lui-même le bulletin de vote, c'est-à-dire le matériel électoral. Tu vois, nous, c'est unifié en France, on a tous le même matériel électoral, très codifié. Mais eux, c'est pas le cas. Donc, il y a certains endroits où le bulletin de vote est carrément illisible. Il y a certains endroits où c'est incompréhensible. Si tu es, pour peu que tu sois pas très anglophone, hein, ça peut exister. C'est compliqué. Il y en a certains où il faut signer, d'autres où il faut pas signer. Certains où il y a trois enveloppes dans lesquelles tu votes par correspondance, dans lesquelles il faut mettre son matériel. D'autres deux. Certains où l'enveloppe a une couleur. Pour faciliter le dépouillement, donc la couleur du vote déjà, tu vois, donc le secret, voilà. Donc tout ça est vraiment très compliqué. Par exemple aussi les bureaux de vote physiques, dans certains États en fait ils ont décidé une montée en puissance de l'ouverture des bureaux de vote, c'est-à-dire que nous on sait exactement quand ici en France on sait exactement où on vote en fait. Quand tu reçois ta carte électorale, tu connais ton bureau de vote, il change pas tant que tu déménages pas. Et bien eux, c'est pas du tout pareil, en fait. Donc, certains ont décrété une montée en puissance du nombre de bureaux de vote. Donc, les bureaux de vote ouvrent au fur et à mesure qu'on se rapproche du D-Day. Donc, le D-Day, c'est la date butoir pour voter. Hein. C'est le mardi 3, donc. Donc, tout ça est vraiment compliqué. Historiquement, les résultats étaient connus le soir même. Les résultats ne sont pas... décrété comme chez nous, ça y est, on a un échantillon représentatif suffisamment important de la population pour savoir que voilà, à quelques votes près, en fait, ça va, on connaît les résultats de manière probante. Là-bas, c'est celui qui a perdu qui concède, qui laisse la victoire à l'autre candidat.
D'accord.
Et ce qui se passe, c'est que Trump, s'il gagne, il a d'ailleurs jamais parlé de l'hypothèse où il ne gagnerait pas, a décidé qu'il ne... Enfin, donc lui, il est dans sa tête, il va gagner. Et si jamais il devait concéder la victoire à Biden, il a dit que de toute façon, il remet en question le vote par correspondance. Pour lui, le vote par correspondance n'est pas suffisamment sécurisé. Et de toute façon, comme je viens de te l'expliquer, les gens peuvent continuer à voter jusqu'au mardi 3. Ils peuvent même s'inscrire sur les listes électorales, parce que c'est un cas de figure qui s'est produit, c'est que en fait, les gens arrivent au bureau de vote, mais ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Et ils ont la possibilité de s'inscrire le jour même. Nous, on ne peut pas. Nous, c'est 3 mois avant maximum. Donc eux, il y a des gens qui vont s'inscrire et voter le 3, y compris par correspondance. Et le vote est très très serré, peut être très très serré, en fait, dans ces états en ballotage, il peut être extrêmement serré. Donc, autant te dire que tout ça a mis l'un dans l'autre. Si tu rajoutes en plus un découpage électoral qui a été refait il n'y a pas longtemps et qui défavorise nettement le vote des minorités, si tu rajoutes que le peu d'inscriptions quand même globalement sur les votes électoraux, hein, c'est un des pays au monde où on vote le moins, des pays démocratiques où on vote le moins, finalement tu t'aperçois que les femmes, les noirs, les jeunes votent très peu. En 2016, hein, tu avais 56% des électeurs éligibles qui ont voté simplement. selon le Pew Research Center. Tu vois, donc c'est vraiment un pourcentage qui est très très peu élevé par rapport à ce qu'on connaît. Donc finalement, voilà la situation et voilà pourquoi on se retrouve avec un certain nombre de marques qui vont inciter à voter.
D'accord. C'est quand même le bordel, quoi. Enfin, là, je me rendais pas compte que c'était à ce point-là.
Oui, c'est vraiment c'est vraiment la foire d'empoigne, en fait. Et c'est plus important que jamais, évidemment, parce que les enjeux sont considérables. Et puis, alors, on peut pas dire, moi, j'ai quand même posé la question à pas mal de gens aux États-Unis et dans les DNVB, par exemple, à Rodolphe Bérébi, qui est le CFO de Adormi. On a parlé longuement de la situation. On peut pas dire que les Américains détestent Donald Trump. Hein. Nous, ici, en France, on a l'habitude de se moquer de lui, mais il est quand même encore très, très soutenu. Ça sera pas un vote de rejet comme on en connaît nous en France.
D'accord.
C'est beaucoup moins simple que ça. Plus compliqué par le fait qu'effectivement, t'as un certain nombre de gens qui ne votent pas parce que c'est très, finalement, quand même, ça reste très compliqué. On peut dire, qu'est-ce que ça a compliqué de voter par correspondance ou qu'est-ce que ça a compliqué de voter voter en allant au bureau de vote. Alors, l'autre complication d'aller au bureau de vote chez eux, on a parlé du vote par correspondance, mais aller au bureau de vote, donc à part qu'il faut déjà savoir où est son bureau de vote, c'est que donc le vote ne se déroule pas le week-end, pas le dimanche. Vote pas le dimanche. Nous, on vote le dimanche, eux, ils ne votent pas le dimanche.
Okay.
Les bureaux de vote ne sont pas ouverts le dimanche. Donc, ça veut dire que pour aller voter, ils font prendre des heures de congé. Alors, pour peu que le bureau de vote soit loin, il faut prendre une journée entière.
D'accord.
Donc, les gens les plus faibles, qui ont les plus faibles revenus, ne vont pas risquer de prendre une journée entière. Donc, effectivement, tu as des entreprises, on va le voir, qui ont incité au vote de cette manière, en donnant une journée. Mais la première chose à faire, c'est ce que Rodolphe m'a expliqué pour Adormi, c'est de faire de la pédagogie auprès de tes collaborateurs, en fait. Si tu veux inciter au vote, alors eux, en interne, par exemple, chez Adormi, mais ils ont fait des réunions en interne avec leurs collaborateurs juste pour leur expliquer
Incroyable.
Le matériel électoral. C'est à ce point-là. Et tu peux t'imaginer si eux, avec leurs collaborateurs, qui sont des gens qui sont quand même qualifiés, formés et qui ont été à la fac, ce que ça peut donner quand on parle à des gens qui sont pas du tout qualifiés et pas formés. Donc les marques, les entreprises, je vais pas parler des marques, hein, mais les entreprises d'une manière générale, on l'a vu, je pense que où que tu regardes, tu verras qu'elles ont trouvé une nouvelle manière de... Enfin, elles se sont vraiment emparées cette année avec différentes tactiques d'ailleurs, qui sont plus ou moins marketing, pour inciter au vote et pour faire un genre d'activisme donc pour inciter au vote en donnant du temps libre. Pas mal ont donné du temps libre, justement, de ce que je t'expliquais, un jour de congé. Ça s'est négocié, parfois c'était des négociations carrément par syndicat, comme chez General Motors par exemple. Mais Patagonia, ça fait depuis 2016 qu'ils donnent un jour à
tous leurs salariés
pour aller voter. Et puis tous, hein, Steve Madden, Ralph Lauren, Birkenstock, voilà, tous
le font.
Walmart, Coca-Cola, JP Morgan, Starbucks, enfin, je pourrais tous te les citer, hein. Soit ils ont donné des horaires flexibles, soit ils ont payé du temps pour aller voter. Pas mal ont donné aussi des ressources aux employés. Alors, par exemple, Old Navy, qui appartient à Gap, ils ont offert des heures, 8 heures de salaire aux salariés qu'ils demandaient pour aller servir d'agents électoraux sur place.
Ok.
Aussi, pareil, Starbucks a lancé une initiative qui s'appelait Fuel Democracy. Tu vois, je t'en cite, mais en fait, ils ont tous pris chacun ses initiatives d'une manière générale. L'association de distributeurs de chaussures a lancé une organisation pour promouvoir la formation en ligne pour former les employés. Tu vois, ça va vraiment jusque-là. Évidemment, il y a eu beaucoup de lobbying aussi. Et puis, énormément de communication et de sensibilisation pour les électeurs. Donc ça, je pense qu'elles l'ont pratiquement toute faite.
Pourquoi ils le font ? Ils le font pour sortir Trump ou ils le font parce que les entreprises ont un rôle citoyen là-dedans ? Et surtout, est-ce qu'ils prennent parti ? Est-ce qu'ils prennent parti publiquement ? Ça, c'est ma deuxième question. Et ma troisième question, est-ce que c'est pas dangereux de se prononcer au risque de se mettre à dos une partie de ses clients ?
C'est une très bonne question, très pertinente que tu poses, et il y a plein de réponses. Alors, ils l'ont fait pourquoi ? Un, pas pour sortir Trump, comme je t'expliquais. L'opinion publique est déjà très polarisée. Et ce que me disait Rodolphe, c'est que quand ils avaient déjà manifesté leur soutien aux gays, ils s'étaient aliénés une partie de leur public. Donc, t'as jamais envie de te couper, quand même, t'es là pour faire du business. Donc, il faut être très courageux pour être en faveur d'un ou d'un autre candidat. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ils ne peuvent pas ne pas le faire pour plusieurs raisons. Déjà parce que leurs collaborateurs le leur demandent. Alors là, si on prend le cas... Donc, globalement, toutes les entreprises américaines, tous les influenceurs, sauf si c'est une question personnelle et que tu n'as rien à vendre, incitent à voter, déjà. D'autres incitent les femmes à voter, incitent leur communauté, les noirs à voter, tu vois. Déjà, voter, c'est la première chose. Ensuite, certaines vont appeler à voter un candidat. Évidemment, là-dessus, c'est chacun ses risques et périls, et si tu décides que c'est dans tes valeurs d'appeler à voter pour un candidat et que tu risques de perdre une partie de ton opinion, à tes risques et périls, certaines l'ont fait, hein, et pas mal parmi les DNVB, évidemment. Ou à soutenir Obama, par exemple, ce qui est une manière indirecte de soutenir Biden. Donc, de manière directe ou indirecte. Mais ce qui se passe, c'est que, contrairement à ce qui s'est passé, et ce qu'on peut observer, contrairement à ce qui s'est passé les années précédentes, c'est que, Rodolphe me disait, les collaborateurs le demandent. Les collaborateurs, ils ont été engagés sur un certain nombre de valeurs, et donc ils attendent de leur DG qu'elle pèse de leur poids et qu'elle pratique ce qu'elle prêche. Donc ça, c'est vu pour les DNVB, et ça se voit énormément dans la Silicon Valley, qui a longtemps été considérée comme libérale d'ailleurs, mais pas hyper active politiquement. Et cette année, tous les patrons de la tech s'y sont mis. Ça, c'est d'abord voilà, les collaborateurs qui disent bon, alignez-vous avec les valeurs que vous revendiquez. Et ensuite, les consommateurs eux-mêmes sont très très vigilants. Et il y a un certain nombre d'ailleurs, on observe qu'il y a un certain nombre de que cette vague d'activisme est soutenue par des outils d'un genre nouveau. Par exemple, il y a un certain nombre de startups qui sont là pour observer la manière dont les entreprises donnent et soutiennent les candidats. Donc, tu as une startup, par exemple, qui est basée à Washington, qui s'appelle Progressive Shopper. Tu peux installer, c'est un plugin Chrome, donc tu peux installer sur ton ordinateur. Et quand tu vas être sur le site d'une marque, elle va te dire si la marque, les entreprises américaines peuvent déclarer des dons aux candidats. Ils déclarent des dons pour l'entreprise, pour le top management et pour les managers. Donc tout ça, ça s'agglomère, hein. Ok ? Donc, en fonction des dons qu'ils auront faits, tu verras s'afficher à côté de la marque un petit drapeau bleu ou rouge, disant voilà, dépense républicaine ou dépense libérale. Donc, c'est exactement où en est l'entreprise. Et évidemment, comme eux, ça s'appelle Progressive Shopper, ben, eux, ils ont pris part au débat. T'en as plein d'autres. Il y en a une qui s'appelle Goods Unite Us, qui, pareil, donne des notes aux entreprises qui font des dons politiques. Et puis elle te révèle d'ailleurs les noms des cinq premiers responsables politiques auxquels les cadres de l'entreprise ont fait des dons. Et aussi, elle te dit quelles entreprises ont contribué d'une manière ou d'une autre à la crise du Covid et celles qui ont eu un impact sur la pandémie. Mmh. Elle va même jusqu'à tracer, figure-toi, si ton entreprise a fait des dons pour le Covid, mais que par exemple elle vend des ventilateurs, admettons, et du coup elle aggrave les conséquences du réchauffement climatique. Du coup, ça baisse sa note.
D'accord.
Ouais. Donc,
comment s'appelle ça?
Pardon?
Comment elle s'appelle cette appli?
Goods Unite Us.
D'accord.
Donc, tu vois, d'une manière générale, d'ailleurs, il y a pas mal d'outils qui dépassent donc l'aspect politique et qui vont appeler à un vote éthique pour te faire prendre conscience, justement, de la manière dont tu peux voter. Tu peux être un activiste du porte-monnaie, j'ai envie de te dire. Et aussi le pouvoir et l'influence des entreprises et comment elles façonnent ta vie. Et vraiment, la question de savoir comment acheter de manière éthique, c'est devenu une question, je pense, la question la plus pressante de l'année 2020 et la plus compliquée. Parce que, tu peux te demander si l'entreprise auprès de laquelle tu achètes soutient tel ou tel politicien. Est-ce qu'eux-mêmes soutiennent des politiques racistes? Est-ce qu'aux États-Unis, ils soutiennent des associations pour le port d'armes, des associations, tu vois, de policières? Est-ce que l'entreprise nuit à l'environnement, sachant que le changement climatique a un impact disproportionné sur la communauté noire, etc., etc. Les questions vont extrêmement loin, en fait, beaucoup plus loin que ce qu'on n'a jamais vu en France, sur la relation entre l'entreprise auprès de laquelle tu achètes et la manière dont elle impacte sur ta vie. Mais il y en a plein. Il y a une app qui est un peu plus vieille, qui a été lancée en 1989, qui s'appelle Little Sis, et qui est d'ailleurs basée au Royaume-Uni. Et elle cote les sociétés britanniques et aussi les grandes sociétés américaines. Et là, tu peux avoir vraiment une vision beaucoup plus large, en fait, de qu'est-ce que c'est qu'une société éthique, puisque cette app, elle attribue des notes dans quatre catégories différentes: la politique, l'environnement, le droit des animaux et le droit de l'homme.
D'accord.
Et donc, elle publie carrément la liste des entreprises à éviter. Puis, tu as aussi Influence Map. Là, c'est plutôt sur l'influence des entreprises sur le changement climatique, etc., etc. Et en fait, le gros déclencheur, c'est vraiment donner du sens aux mots par l'acte. Non, je crois que c'est... C'est le maître mot aujourd'hui de ce que veulent les consommateurs. Quand on parle des consommateurs, c'est aussi les collaborateurs des marques. Donc il doit y avoir un alignement parfait sous peine d'être taxé justement de marketing.
Ouais.
Et c'est vrai que du coup je me suis demandé, est-ce que ça a un impact direct, le fait d'appeler au vote par exemple? Est-ce que ça va impacter directement sur le vote? Puisque c'est assez compliqué, en fait, déjà, tu vois, on en a parlé. En fin de compte, donc il y a un chercheur qui s'appelle Christopher Mann, qui est politologue au Skidmore College aux États-Unis, et qui étudie justement tout le système de vote et des élections. Et pour lui... il dit que c'est pas vraiment efficace, en fait, tout ça. Que même s'il y a des appels au vote, même si les marques pèsent et parfois mettent des fortunes là-dedans, ça reste quand même que un pourcentage très faible, peut-être 1 à 2% de votes supplémentaires. Parce que, justement, il y a une ambiguïté, c'est que les marques qui vont appeler au vote s'adresse à des consommateurs qui sont déjà, surtout si tu parles des apps de la Silicon Valley, de la tech, si tu parles des DNVB, ou si tu parles des marques de luxe, encore pire, ou de mode, elle s'adresse déjà à des gens qui de toute façon vont voter, qui de toute façon font partie des plus éduqués.
Bien sûr.
Donc, c'est pas, en fait, c'est pas eux qu'il faut mobiliser. Et si tu veux mobiliser les électeurs, la manière la plus efficace de le faire aux États-Unis, c'est par le démarchage en face à face, suivi d'un appel téléphonique. Et ça, ben, les marques, elles n'ont pas les ressources pour le faire, elles ne vont certainement pas s'adresser à faire comme ça. Elles ne vont pas le faire comme ça.
Ouais.
Et la plupart du temps, elles envoient des emails, en fait. Ou alors, tu vois, elles prennent de l'espace publicitaire, ou alors elles font
bien
des...
sûr.
Comme Glossier, ça m'a fait rire, elles font sur Instagram des filtres, tu vois. Mais bon, c'est marrant, c'est ludique, et c'est vrai qu'une marque comme Glossier s'adresse à une population jeune, mais qui est déjà quand même...
Très éduquée, ouais.
Donc, est-ce que ça va augmenter suffisamment les votes? Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui se sont inscrits cette année. Est-ce que c'est une conséquence ou pas? Sur les listes électorales, est-ce que c'est une conséquence du confinement ou de la politique de Trump? On n'en sait rien. Toujours est-il que, justement, dans mes discussions avec Rodolphe, j'ai évoqué ce point aussi. Et ce qu'il me disait, c'est que, donc, état par état, il arrive que le vote soit extrêmement serré, à 100 voix près.
Ah ouais.
C'était passé dans l'état de New York la dernière fois. Okay. Et que donc, chaque vote compte pour asseoir la crédibilité du candidat. Et ça va compter à long terme. Donc ça, il faut l'avoir en tête quand même.
Mm-hmm.
Maintenant, c'est sûr que pour beaucoup, beaucoup de marques, moi, je pense que c'est quand même un problème de riches et de blancs, très éduqués. Et ça projette... Alors ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est... Donald Green, qui est politologue à l'Université de Columbia, et pareil, il étudie, lui, le vote par courrier. Je dis en anglais, donc c'est pas par courrier.
Ouais.
Et en fait, il dit qu'encourager l'inscription, c'est juste un moyen pour l'entreprise de projeter une image citoyenne et non partisane à peu de frais.
Ouais.
Voilà. Voilà. Pour lui... Okay. Ouais, c'est ça porte pas forcément d'intérêt. C'est vrai qu'aussi on a tous en tête et on en a déjà parlé dans ce podcast de l'exemple de Nike qui s'était servi de son engagement politique et que ça avait très bien fonctionné et que donc c'est un exemple qui est relativement suivi. Mais tu vois, même eux, ils n'appellent pas spécialement les républicains à changer de camp. Tu vois,
bien sûr.
Ils appellent à voter, c'est tout. Voilà. Donc, voilà, à peu près. Donc, c'est une élection vraiment à suivre de très très près. Il y a un exemple que je trouve très frappant dans cette espèce de entre guillemets utilisation marketing de l'appel au vote. C'est le cas d'Uber. Alors je dis pas qu'ils sont les seuls, mais bon, c'est celui que j'ai lu. Ils ont accordé à leurs collaborateurs, à leurs employés, une journée électorale pour qu'ils puissent aller voter, mais ils n'ont pas étendu la mesure aux chauffeurs.
Oh là là, ouais.
Voilà, parce que évidemment, ils n'ont jamais voulu classer leurs chauffeurs comme des employés. Du coup, voilà. Donc, chacun pourra.
Ça leur retourne pas dans les dents? Ça se retourne pas contre eux?
Ben si, puisque j'en parle, je ne dois pas être
ouais,
la seule.
Il y en a d'autres qui
doivent. Et que je ne suis qu'une observatrice
ouais.
à mon humble échelle. Tu imagines bien que si. Bien sûr. Mais bon, ils n'en sont pas à leur première écart de conduite. Hein, Voilà. Après,
ça,
moi,
Vas-y. Oui. Non, je vous posais la question. Simplement, je me dis, OK, bah, là, ça se passe aux États-Unis. Qu'est-ce que nous, petits Français, on peut retenir de tout ça, même si bon, les systèmes électoraux sont très différents, que les situations politiques sont assez différentes. Qu'est-ce que les DNVB françaises et les marques françaises plus globalement doivent retenir de ces élections américaines pour anticiper les élections françaises qui seront assez rapidement là, hein, c'est 2022 il me semble.
Oui, alors déjà on n'est pas exactement dans le même contexte on est dans le même contexte géopolitique, mais on n'est pas dans le même contexte sur le fonctionnement du vote. Hein. Heureusement, c'est quand même un poil plus simple en France.
Ouais.
Ce qu'il faut retenir, c'est toujours la même chose, c'est que si tu décides d'avoir un discours quel qu'il soit, il faut que ce soit toujours cohérent avec les valeurs de ton entreprise et il faut que ce soit fait jusqu'au bout. Ça peut pas être quelque chose de très superficiel. Je pense que c'est quelque chose qui est à décider avec l'ensemble des collaborateurs. On n'est pas vraiment dans le même cas de figure et je pense pas qu'il y ait réellement de leçons à tirer de cette élection américaine en ce qui concerne l'implication des marques. Maintenant, il y a aussi des marques internationales hein, qui prennent la parole, donc qui sont en France et qui prennent la parole aux États-Unis. Mais par exemple, quand je lui posais la question tout simplement à Rodolphe, encore une fois, pour Adormi, donc Adormi, c'est une DNVB américaine qui fait de la lingerie, mais qui a été fondée par des Français. Hein. Donc je leur ai dit, mais pourquoi vous, pourquoi est-ce que vous incitez au vote parce que, en fait, par ton vote et par la manière dont en fait, tu exprimes le fait que tu sois un citoyen. Et par l'incitation au vote, tu montres aussi que tu es un citoyen. Donc il faut faire la part des choses. Est-ce que tu vas le montrer en tant que leader d'opinion toi-même à titre individuel ou est-ce que tu vas le faire au travers de ta marque? Ça, c'est la première réflexion à avoir. Est-ce que tu vas inciter tes consommateurs à agir, à être des consommateurs qui vont voter avec leur porte-monnaie? De quelle manière tu vas le faire? Est-ce que tu vas enfin essayer de faire bouger les lignes, non pas par rapport aux candidats qui se présentent, mais par rapport effectivement à toute la géopolitique? Entre guillemets, autrement dit, est-ce que tu as conscience qu'il faut agir pour le climat, qu'il faut agir pour la planète, qu'il y a des urgences, et il y aura de plus en plus d'urgences sociales aussi à prendre en considération. Est-ce que tu vas prendre la parole et de quelle manière tu vas le faire en étant tout à fait aligné avec tes valeurs? Je pense qu'on peut commencer à y réfléchir dès à présent. Voilà pour ce sujet dont on pourra débriefer la prochaine fois, puisqu'on aura le résultat que la prochaine fois qu'on parlera.
J'espère qu'on l'aura, parce que c'est pas sûr à 100% hein, si l'un des deux refuse la victoire de l'autre, ça peut durer très longtemps, il me semble.
Ça peut durer longtemps, oui, et ça effectivement. Et si comme je te l'ai expliqué, le matériel électoral est réfuté par ici et par là, parce que il y a eu parfois des paquets de votes hein, qui ont été refusés, qui ont été considérés comme annulés, parce que par exemple, l'endroit où il fallait signer, parce qu'il y en a certains qu'il faut signer, d'autres il faut pas signer. L'endroit où il fallait signer, en fait, était illisible. Il y a eu même, je ne me souviens plus dans quel comté, mais les gens ont voté pour l'autre candidat que celui pour lequel ils voulaient voter. Donc 600 votes annulés et à recommencer.
Incroyable.
Ouais. Tellement le matériel est parfois illisible.
D'accord. Bon, on va suivre ça de très très près.
Ouais. Alors à moi, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y a un raz-de-marée pour l'un ou pour l'autre. De toute façon, ça sera beaucoup plus simple.
Bah écoute, merci infiniment de nous avoir un petit peu éclairci sur ce sujet des élections américaines. J'espère que la prochaine fois qu'on se parlera, on aura un vainqueur. Et je te dis à très bientôt et courage dans cette période un petit peu morose, compliquée. Keep pushing, comme dirait Mathieu Stéphanie.
Haut les cœurs.
À bientôt, salut.
La joie. Ciao, Adrien.
Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.